Le bystander effect. Effectivement, je connaissais ce truc, mais pas la définition. Je pense que j'ai déjà vécu aussi collectivement. Enfin, en tant que meuf, tu te fais souvent agresser, et si t'es dans une rame de métro, par exemple, bah, personne ne va réagir.
À toutes et à tous, vous écoutez la radio et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'au moins en ce moment, vous n'êtes pas planté devant un écran, à moins que vous nous écoutiez sur votre téléphone en regardant le logo France Inter fixement, auquel cas je ne peux vraiment rien faire pour vous. Journée spéciale France Inter crève l'écran oblige, Zoom Zoom se met au diapason en zoomant aujourd'hui sur un phénomène dont on a parlé en marge du drame de Cran Montana, ce bar où un incendie a fait 40 morts le soir du réveillon, l'effet bystander. Effet témoin, en français, un effet de sidération qui fait que lorsque vous êtes plusieurs à assister à un drame, une agression, un accident, vous avez tendance à rester pétrifié plutôt qu'agir, aller porter secours. D'où le fait qu'à Cran Montana, certains aient préféré filmer ce qui se passait plutôt que d'intervenir à une toute autre échelle. Bien moins dramatique évidemment, puisque Manon s'en est finalement sortie. Nous avons eu une illustration frappante de cet effet témoin quand soudain, en pleine chronique, Manon s'est étouffée après une quinte de toux.
C'est pas vrai.
Le bon réflexe aurait été d'arrêter l'émission et d'appeler les secours, voire de placer Manon en position latérale de sécurité. Non. Le premier réflexe de Quentin a été de rigoler bêtement en s'exclamant « Bah alors, il avait les travers, Grégory Lemarchal ?» Quant à Cyril, qui est pourtant investi d'un devoir de responsabilité depuis qu'il a été promu producteur délégué à la coordination bidule de Zoom Zoom Zen. Vous le savez déjà, il a préféré dégainer son iPhone pour capturer ce qu'il pensait être les derniers instants de la Marianos. Là, on ne peut même plus parler d'effet témoin, mais d'effet enflure. Alors qu'est-ce que l'effet témoin ? Comment y échapper ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter crève l'écran. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Hélène Romano.
Bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous Hélène, vous êtes psychothérapeute et spécialiste des traumatismes. Vous êtes en duplex des studios de nos confrères d'ici Saint-Étienne-Loire. Vous analysez depuis un moment les effets des écrans et les comportements qui en découlent. On va comprendre avec vous ce qui provoque l'effet bystander, effet témoin en français. Déjà, est-ce qu'il y a un lien entre l'effet bystander, donc l'effet témoin, et le voyeurisme ?
Au niveau psychique, non. L'effet bystander, c'est vraiment expliquer le niveau d'effraction psychique. On est face à quelque chose qui n'a pas de sens, qui est complètement indicible, quelque chose d'extrêmement violent. On est plusieurs et on va se porter les uns les autres en disant que l'autre va intervenir. C'est vraiment la notion de groupe. Mais on est psychiquement totalement dans un état d'effraction. On n'a plus la capacité de réagir. Et j'aurais envie de dire qu'on est passif à l'insu de notre plein gré. Ce qui n'est pas du tout de la lâcheté, c'est pas du tout intentionnel comme le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est vraiment quelqu'un qui volontairement va avoir la notion de filmer quelqu'un qui souffre, qui n'est pas bien et qui trouve du plaisir à voir l'autre souffrir. On n'est pas du tout sur le même registre.
Pour y voir plus clair sur un sujet complexe, il faut toujours remonter à l'origine, aux sources du phénomène. Et une rubrique fait ça admirablement. Depuis 665 émissions aujourd'hui, cette chronique, c'est évidemment le...
D'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Ce truc.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui dansent de l'autre côté de la radio. Comme ça.
C'est quoi le...
On n'a jamais relevé les paroles. Ce truc bizarre qui nous transporte.
Qui nous transporte. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment le doux ça.
C'est Cyril.
Cyril Lacarrière.
C'est Cyril.
Dites-nous, cet effet témoin, l'effet bystander, d'où ça sort ?
Imaginez, vous marchez dans une rue bondée. Soudain, quelqu'un se fait agresser devant vous. Instinctivement, vous figez. Vous regardez autour de vous. Il y a 10 personnes, 20 personnes qui regardent aussi. Et comme tout le monde regarde sans bouger, eh bien, vous ne bougez pas non plus. Vous vous dites intérieurement, quelqu'un a sûrement déjà appelé la police ou quelqu'un va intervenir. C'est ce qu'on appelle l'effet bystander, qu'on pourrait traduire par l'effet du témoin. Et comment est apparue cette notion, Mathieu ?
Je vous pose la question, parce que vraiment, on se la pose tous.
Voilà, et bien elle sort d'une nuit d'horreur à New York. Nous sommes le 13 mars 1964, à 3h du matin, dans le quartier du Queens. Une jeune femme de 28 ans rentre du travail, elle est attaquée au couteau au pied de son immeuble. L'agression dure longtemps, le tueur revient même plusieurs fois sur place. Deux semaines plus tard, titre du New York Times. 37 témoins ont vu le meurtre et n'ont pas appelé la police. L'article raconte comment les voisins ont allumé la lumière, ont regardé par la fenêtre et sont allés se recoucher. L'Amérique est sous le choc. On parle de décadence morale, de la froideur des grandes villes, de la déshumanisation. 4 ans plus tard, 2 psychologues déconstruisent la théorie des monstres. Et si ses voisins étaient en fait des gens normaux, piégés par la situation ? Ils lancent une série d'expériences fascinantes. Le résultat est sidérant. Si vous êtes seul avec la victime, vous intervenez dans 85% des cas. Si vous êtes en groupe, l'intervention chute à 31%. Une sorte de dilution des responsabilités. Quand vous êtes 10 à pouvoir intervenir, votre cerveau fait un calcul inconscient. Pourquoi moi et pourquoi pas lui. Et c'est comme ça que l'inaction devient la norme sociale, et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Hélène Romano, cet effet bystander s'est malheureusement illustré récemment, on l'a dit, lors du drame de Crans Montana. On a vu beaucoup de témoins prendre leur téléphone portable pour filmer l'incendie plutôt que d'aider les victimes. Pourquoi donc, face à l'urgence, on reste comme ça passif?
Alors pour Crans Montana, comme ça a été très diffusé, il y avait deux niveaux. Il y avait les impliqués qui étaient vraiment dans le bar du Constellation et qui filmaient. Il y avait les gens à l'extérieur qui filmaient. C'est pas le même niveau d'exposition psychique, de d'effraction. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'automatisme. Je ne suis pas en capacité d'être face à la réalité. J'essaie de me la réapproprier en utilisant le téléphone portable et je vais me protéger de l'horreur que je vois sous mes yeux. Alors quand on est à l'extérieur, chez soi, derrière la télé ou à distance, on se dit mais comment se fait-il? Pourquoi les gens ne sont pas intervenus? C'est lâche, c'est pas courageux. Mais il faut bien se mettre dans la situation où ces gens-là, ils sont face à quelque chose d'hallucinant, d'incroyable, d'inintelligible, qui fait qu'on ne fonctionne pas psychiquement comme on fonctionne quand on a tous les repères habituels.
Et là, on comprend que c'est quelque chose qui est ancré assez profondément en nous, que c'est quelque chose d'assez normal. Néanmoins, face à une scène comme ça de drame, il y a certaines personnes, je crois qu'il y a un jeune footballeur qui s'est jeté dans les flammes pour aller sauver sa copine, il y a quand même certaines personnes qui dépassent cet effet bystander pour se jeter dans les flammes, en l'occurrence. Est-ce que, comment ça, on l'explique ça, c'est quelque chose de personnel ou c'est une où il y a un mécanisme psychique qui permet de dépasser l'effet bystander?
Alors, on l'explique par le fait que nous ne sommes pas tous les clones les uns des autres et la singularité de chaque individu fait qu'on est différent, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas non plus la même exposition, la même expérience de vivre dans des situations compliquées. Les sauveteurs, les militaires qui interviennent vont souvent être plus en capacité de faire face à des drames comme ça parce qu'ils sont entraînés, habitués. On peut avoir dans les situations de secours extrêmes des gens qui vont être en ce qu'on appelle en conduite automatique sans que ça soit très raisonnable et très raisonné, qui vont se jeter dans l'eau froide, retourner dans l'incendie, sans forcément bien raisonner le danger, et qui, certaines fois, vont pouvoir sauver, mais qui, certaines fois, vont mourir. Donc, ça peut être aussi une conduite automatique, une forme de court-circuitage, je vais faire quelque chose, je sauve, quitte à mourir, sans réfléchir au risque que je prends. Donc, il y a des situations très variables, mais on réagit différemment, parce que l'être humain est pluriel, et heureusement, on n'est pas tous pareils.
Est-ce que c'est un manque, entre guillemets, de courage, ou c'est tout simplement aussi de la peur?
Alors, moi, je suis psy, j'aurais tendance à dire que les personnes qui ont été figées derrière leur téléphone, incapables de s'en détacher, étaient plus, je mets des guillemets, blessées psychiquement, comme une effraction, une blessure, la blessure psychique, elle ne se voit pas, en incapacité d'agir. C'est très différent des personnes qui ont rediffusé ces images sans limite plusieurs jours plus tard.
Sur les réseaux.
On n'est pas, là, on est sur du voyeurisme. Vous voyez, on n'est pas sur le même niveau.
Voici venu l'heure où la France s'arrête. Que dis-je, la France? Le monde, car son expertise comique est désormais international. Marie De Breuer, petit tour aux États-Unis puisque Donald Trump a encore fait n'importe quoi.
Donald Trump a publié ses échanges par SMS avec le président Macron. Déjà, merci Donald de ne pas avoir publié les nudes que Manu t'avait envoyé la veille. Ça n'aurait pas été correct. Hein, et personne n'a envie de voir Macron avec son costume de furie, imitation ours polaire, avec tout ce qui se passe au Groenland. Enfin, ça aurait été indécent. Puis ça n'intéresse personne de voir Emmanuel avec un plug queue d'ours, ses cache-tétons en forme de flocons de neige et le baillon boule, hein, floqué avec le drapeau danois. Non, il faut mettre une limite.
Hein. C'est mieux.
Après, ça explique pourquoi Emmanuel Macron a préféré écrire un SMS plutôt que de faire une note vocale. Bah ouais, vous faites un film, vous faites un boule, vous faites un projet, on comprend rien. Donald a fait des screenshots avec son téléphone des messages. Il les a balancés sur son Truth Social et alors la police d'écriture sur son tel, mais c'est en gros, en énorme. Il a été obligé de faire deux screenshots tellement c'était écrit en gros. Il y a un mot par ligne. Voilà. Et alors, papy Trump, il a pas des lunettes d'appoint pour la lecture, hein. Je sais bien qu'ils ont pas la carte vitale là-bas, mais quand même, ils vont bien me trouver un ophtalmo dispo à Washington, les Amerlocs. Ceci dit, on est ravis d'apprendre qu'il n'a pas perdu toute sa motricité fine, hein, parce que papy Trump arrive à faire un screenshot, voilà, en appuyant sur les deux boutons en même temps. Very good, Mr. President. With two fingers. You have presque pas d'arthrose. It's super. Hein. Je vous propose une analyse du SMS. Déjà, Macron commence par From President Macron to President Trump. Et oui, il faut préciser, hein, parce que Donald n'a pas enregistré le numéro de Macron. Voilà. On peut d'ailleurs voir sur la photo que le président français est nommé sur le téléphone avec uniquement un emoji baguette. Tout le long de son message, Macron n'utilise pas pas le point en fin de phrase, ça, c'est un truc très malin. C'est de la psychologie, presque. Il sait qu'un point, ça vexe. Hein. Ça durcit le message. On se parle tout à l'heure sans point, ça fait on se parle tout à l'heure. Avec le point, on se parle tout à l'heure. Et oui, c'est aussi ça, la diplomatie. Moi, il y a un moment du texto que j'ai beaucoup aimé. Voilà, quand Emmanuel propose à Trump d'aller dîner, il écrit « Let us have a dinner together in Paris together on Thursday. » Together in Paris together, Emmanuel. Ensemble à Paris, ensemble. Et c'est là que j'en reviens à l'idée de la note vocale, plus simple, hein, moins d'erreurs. Oh, sorry, it's le baillon bouche là. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah yes, Donald. Thursday, we can tailler la bavette in Paris, Donald. Do you know la rotonde? It's like brasserie, but there is burger. Hein, mais... Non, non. En fait, il vaut mieux écrire des SMS si j'ai rien dit. You fucking French comedian. Oula, et qui c'est qui me parle? It's me, Donald Trump. You fucking French Jimmy Fallon with big pussy. Oh, Mr. Trump, désolé, but you're going to parler correctement. You are complètement zinzin with Groenland. Hein? Do you think about the polar bears? You want la guerre? C'est ça que you want? Oh, we are not gonna se laisser faire. Hein? Allô? Donald, allô, tu m'entends? Il a raccroché. Oh, je l'ai mouché, le mec. Et s'il y a besoin d'une diplomate, appelez-moi.
On y pensera. Merci, Marie de Breuer. Dans un instant, on reçoit l'essayiste Gaspard Koenig pour parler du problème de l'eau potable. Quentin vous a demandé ce que vous en pensiez. Et puis, on accueillera Christine O'Krent pour analyser les membres du clan Trump. Tout ça après Freaks Club, Miss June sur Inter.
Moment de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Elle semble couler de source alors que pas du tout. Zoom sur l'eau potable cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec Gaspard Koenig qui revient avec son roman justement Aqua aux éditions de l'Observatoire. Alors il est temps d'entrer dans le pitch de ce livre. Ce roman raconte une bataille municipale autour de la gestion de l'eau. La commune de Saint-Firmin est un village donc de 500 habitants en Normandie, une commune qui n'a pas manqué d'eau et d'ailleurs la question ne s'est jamais vraiment posée. Arrive un énarque qui propose de mettre en commun cette source avec la communauté de communes et là s'engage un débat remporté par la candidate favorable à la gestion directe de la source. L'eau, c'est un thème qui devient central dans ces petites communes ou au contraire, vous avez voulu montrer qu'on s'en préoccupait peut-être pas assez.
En fait, c'est un débat qui a lieu aujourd'hui pour une raison assez technique, c'est que la loi exige le transfert de la compétence de l'eau de la municipalité aux intercommunalités ou aux communautés de communes. Et donc, il y a quand même un certain nombre de villages, surtout les villages de montagne, où les gens se sentent dépossédés d'une gestion séculaire. Et j'avais eu l'idée de ce livre en parlant à un élu corse, qui était un élu de montagne, et qui disait « Mais nous, cette source, on en prend soin depuis deux millénaires. On organise d'ailleurs le partage de l'eau selon le système des communs, c'est-à-dire qu'il y a des tours d'eau qui sont alloués aux gens en fonction de délibérations démocratiques relativement spontanées, c'est ce qu'on appelle les communs. Et il est hors de question que maintenant, cette eau aille alimenter les piscines des vacanciers de la côte. Voilà. Donc il y a des contextes où c'est plus sensible que dans d'autres, mais ce que j'ai réalisé tout d'un coup, c'est qu'on est à la fois avec un élément qui est mythologique, qui est vraiment premier parce que les villages ont été, les gens ont été habités là où il y avait de l'eau, qui entourait évidemment de toutes sortes de légendes. Et pour écrire ce livre, j'ai été retravailler les légendes normandes autour de l'eau. Et c'est comme ça que j'imagine la naissance de Saint-Firmin, du saint qui trouve la source. Mais tout ça est inspiré d'une collection de légendes très réelles. Donc on est à la fois dans un univers complètement poétique et mythique, et en même temps dans un univers ultra-administratif, bourré de sigles, où plus personne ne comprend trop ce qui se passe, et où les sources, en fait, existent toujours. On a l'impression même qu'une source, qu'est-ce qu'une source ? J'étais voir des hydrologues pour dire, mais ça vient d'où une source ? Est-ce que ça a un fond, une source ? Pourquoi est-ce que l'eau est claire ou pas claire dans une source ? Et en fait, on ne les voit plus, parce que maintenant, une source, c'est marqué SCE sur la carte Cygène, donc personne ne sait ce que ça veut dire. Il n'y a plus de chemin qui mène à la source. Et en fait, la source, elle a été murée dans des petits cabanons de béton qui sont interdits au public pour des raisons de sécurité sanitaire, pour que personne n'aille s'amuser à la polluer, etc. Mais donc, on ne la voit plus, la source. Et quand on y entre, ben, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est plus à l'air libre, elle n'est plus à la lumière, elle est sombre. Et on entend glouglouter, on voit l'humidité. C'est ça qui est important, c'est de se rendre compte de la matérialité, en fait, de cet élément qui ne vient pas du robinet, mais qui vient toujours de la bonne vieille source qui alimente le village depuis des générations.
On découvre dans votre livre Aqua que depuis une loi de 1992, l'eau est considérée comme patrimoine commun de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Non, c'est pas très bien ce que ça veut dire, parce que le problème, c'est que, c'est évidemment, ça part d'une très bonne intention, mais ça veut aussi dire que l'eau, en soi, est complètement gratuite pour tout le monde. C'est-à-dire que l'eau, l'élément eau, n'a pas de prix. Il est censé être disponible en abondance. Et ce qu'on paye, c'est pas l'eau. Ce qu'on paye, c'est les tuyaux, le traitement, etc. Et donc, ça en fait aussi une ressource, paradoxalement, parce qu'évidemment, c'est une loi bien intentionnée, mais paradoxalement, ça en fait aussi une ressource un peu qui est toujours là, qui est naturelle, sur laquelle on ne se pose pas de questions, alors qu'aujourd'hui, se posent des problèmes graves de qualité de l'eau, puisque des différents scandales des minéraliers montrent, et de PFAS plus récemment, montrent que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, en fait, il y a des molécules partout. Et maintenant, de manière moins encore conscientisée de quantité d'eau. C'est-à-dire qu'on va avoir des... Regardez ce qui se passe à Téhéran et à Ankara aujourd'hui. C'est des villes qui sont au bord de la rupture d'eau. Qu'est-ce que c'est qu'évacuer une mégalopole de plusieurs millions d'habitants parce que les gens ont tout d'un coup 3 jours d'espérance de vie parce qu'il n'y a plus d'eau, tout d'un coup on revient sur des choses très primales, alors qu'on est dans l'IA, on est dans des réseaux hyper sophistiqués, au Cap, je crois que c'est en 2018 ou en 2019, ils étaient tellement à sec que la municipalité avait mis au point un compte à rebours pour dire aux gens, regardez, il reste 3 mois pour inciter à économiser l'eau, et finalement ils sont passés juste. Donc on n'y est pas encore dans cet univers, mais en fait le dérèglement climatique va nous y mener assez vite.
Votre livre, c'est aussi une bataille entre citadins et ruraux, une bataille entre énarques et bon sens paysan. Est-ce que les deux sont antinomiques ou peuvent être complémentaires ? Vous dites qu'il ne faut jamais donner le pouvoir au premier de la classe.
Oui, ça c'est sûr que moi j'ai toujours pensé que si les énarques étaient moins intelligents, la France irait beaucoup mieux. Parce qu'ils finissent par construire des cathédrales conceptuelles qui sont les seules à comprendre et qui échappent complètement aux citoyens qui est censé quand même être le décideur de base. Après, c'est un roman, donc j'essaie que ça ne soit pas binaire, notamment la mère un peu bobo qui est élue sur justement la promesse de récupérer l'eau et qui veut finalement, comme souvent les néo-ruraux, faire encore plus local que les locaux, encore plus traditionnel que les tradis.
Il n'y a pas de gentil ou de méchant.
Voilà, parce qu'elle, elle se fait très vite dépasser. On s'aperçoit que ses bonnes intentions manquent aussi beaucoup de compétences techniques et que la vieille du village qui est censée incarner justement une forme de tradition, d'ancienneté, elle est tout pour le progrès, elle est pour l'énarque. Elle a dit c'est le progrès, il faut y aller parce que les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, en fait, c'est des populations des 30 glorieuses qui considèrent qui ont vécu en fait l'absence de tuyaux, les fontaines et qui n'ont aucune envie d'aller porter des baquets et réutiliser 4 fois l'eau quand ils font la cuisine parce qu'ils l'ont vécu et qu'ils trouvent que le progrès, ça a quand même du bon. Donc c'est un roman qui essaye de mettre en place quand même tous les différents points de vue. D'ailleurs, l'énarque, au début, passe un mauvais quart d'heure dans le livre. Après, le personnage se complexifie et finalement, c'est peut-être lui qui apporte la solution. Donc, ça essaye d'entrecroiser tout ça en permettant au lecteur de décider pour lui-même.
Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a beaucoup de réflexion. Et vous, êtes-vous prêt pour le compte à rebours de l'eau potable, quand on vous dira qu'il ne reste que 3 jours de potable? Quentin est allé vous parler d'eau dans les rues de Paris.
Je marche, Mathieu. En fait, non, je flâne. Je suis un flâneur, on va se l'avouer. Je regarde autant la rue que je l'enregistre, et alors que mes pensées divaguent...
Salut, bonjour Quentin.
Bonjour.
Je suis un grand fan de l'émission. Ouais. Et j'écoute tous les jours Zoom Zoom quand je rentre du boulot.
Robert, quel est votre prénom ?
Junior. Alors, est-ce que Cyril, je veux juste savoir, est-ce que vraiment Cyril, la carrière est de mauvaise foi et de mauvaise humeur, tous les jours ?
Alors, si je dois faire le service après-vente, pas de problème. Les jours, ce qui est une performance, il découvre quand même, Junior, le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
L'eau potable. Que dire ? Moi, je bois l'eau du robinet.
Okay.
J'achète jamais d'eau de genre en bouteille. L'eau chez moi, elle est pas trop mal. Et est-ce qu'on sait pas ce qu'il y a dans les bouteilles, vu les scandales qu'il y a eu?
Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans le robinet?
Oui, mais bon, l'eau, elle est gratuite, donc pourquoi avoir de l'eau gratuite et racheter encore de l'eau derrière?
Une réflexion, je lui demande pourquoi ça va vite devenir un enjeu.
Un enjeu parce que dans certaines régions, il n'y a pas assez d'eau, et ça va être la guerre pour l'eau. Pour certains pays comme Dubaï, ils font pleuvoir des nuages parce qu'ils manquent d'eau. Et même ici, en été, quand il y a la sécheresse, voilà, il y a pas mal de soucis d'eau. Parce que moi, je vais dans un village en vacances au Salelles, en Lozère, et dans ce village-là, on a déjà eu des pénuries d'eau. Et ils ramènent des citernes pour remplir le village, ou sinon distribuent des bouteilles, donc pour les habitants c'est compliqué.
Comment réagissent les habitants quand on manque d'eau, quand il y a une vraie pénurie?
C'est la guerre. C'est la guerre parce qu'on a besoin d'eau pour tout, pour se laver, pour cuisiner, pour...
Pour tout, et on peut penser à la Lozère, mais aussi aux Pyrénées-Orientales qui subissent ces pénuries. Comme il me l'a confié avoir 2 enfants, je lui demande s'il les sensibilise.
Économisez l'eau. On fait très attention à l'eau à la maison, on a une réserve, on a un récupérateur d'eau, dans le jardin. Et on se sert de ça pour arroser. Et on fait très attention à l'eau en général, dans les douches, pour se laver les dents, on coupe l'eau, on en rabâche tout le temps, il faut faire attention à l'eau. Donc voilà.
Hey, salut Junior.
Salut Zouzen. Et t'es pas si petit que ça, tu fais la même taille que moi. Tu fais 1m60, combien? Moi je suis 1m77. Donc Mathieu Noël, arrête de vanner Quentin et lui dire qu'il est tout petit.
Voilà, à bon entendeur.
Je ne vous ai jamais vanné sur votre taille, c'est
bien. C'est une blague.
Mathieu.
Oui, c'est une blague.
Maël a 21 ans, nous parlons des différents goûts de l'eau. Celle du robinet, celle en bouteille. Et pour Maël, l'eau n'a pas toujours le même goût.
Ouais, complètement. Moi j'ai une eau préférée, j'ai une marque préférée, et ça tu le sens vraiment au niveau de la minéralité, quoi.
C'est laquelle?
La Volvic.
Ok.
Ah ouais, moi j'aime bien la Volvic, elle a un goût fort, donc je la bois en permanence.
Par rapport à une autre, on va citer une autre marque?
Par rapport à... Je bois aussi de la Cristaline, mais par rapport à Evian, que je bois pas du tout, par exemple.
Pourquoi?
Je sais pas, j'y pense pas. C'est une question d'éducation. Mes parents, ils achetaient pas d'Evian, ils achetaient de la Volvic, donc j'achète de la Volvic.
C'est vrai que le rôle des parents dans l'eau est important. Ce jeune homme, maintenant, sac à dos coloré, smartphone dans la main, il fait une story pour Insta dans les rues de Paris. Il découvre le thème qui nous intéresse aujourd'hui.
Alors, l'eau potable, ça pourrait arriver à manquer. Là, j'arrive d'Athènes et il se trouve que le réservoir qui s'appelle Mornos, qui est un lac à 4 heures de route d'Athènes, réduit de plus en plus, il y a de moins en moins d'eau dedans et pour les années à venir, ça risque d'être un problème et ça pourrait manquer. Voilà.
Et il a un autre exemple dans ce pays qu'il affectionne.
Par exemple, dans les îles des Cyclades, il y a un problème d'eau potable. L'eau potable, elle est amenée par bateau parce qu'en gros, il n'y en a pas, c'est tout sec. Et il y a aussi un tourisme de masse avec notamment des piscines. Quand l'eau est en concurrence entre les piscines pour les touristes et l'eau pour les agriculteurs, en tout cas, ça pose question à
minima. Qui gagne?
Alors, économiquement, j'ai peur que ce soit souvent les touristes. C'est la piscine qui gagne, c'est le tourisme qui gagne bien souvent, même si ça peut sembler paradoxal.
Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur. Dans son anorak rouge, les cheveux en brosse, il est ingénieur dans l'informatique.
L'eau potable, pas à Paris.
Comment ça?
Je ne boirai pas l'eau de la Seine comme j'ai bu l'eau des lacs en Suède.
Oui.
Avec la même confiance, le même degré.
Bon, excusez-nous de ne pas avoir bu à la source en Suède. Je lui parle de l'enjeu que ça peut devenir pour les futures générations.
J'ai 3 enfants. Ouais. Alors après, il y a de l'eau salée. Et les traitements de l'eau salée pour de l'eau potable
existent. Mais c'est très énergivore. Donc, après,
c'est énergivore.
Est-ce que le fait de dessaler l'eau sauvera l'humanité? Le technosolutionnisme comme dernier recours, donc?
Je pense que... Effectivement, il y a une montée du prix de l'eau à prévoir, à moins que, et je pense qu'il faut aussi se remettre dans la condition d'humilité de l'homme, on n'a pas tous les critères. On voit par exemple que le dérèglement climatique fait qu'il y a plus de pluie parce qu'il y a de l'évaporation avec l'augmentation de la chaleur. Est-ce qu'on est capable de maîtriser la complexité de tous les scénarios, même avec des data centers? Pas complètement. Je dirais juste qu'on va vers des prix de l'eau et une rareté de l'eau. Et effectivement, peut-être que ce sera le pétrole de demain. Oui.
Ces rencontres racontent dans la rue surtout notre rapport à l'eau. On apprend, on sensibilise, on commence à comprendre, mais on continue de croire que la planète bleue ne s'épuisera jamais. Aujourd'hui, on débat encore du goût. Demain, peut-être, on comptera les litres.
Bonjour Christine Ockrent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Alors Christine Ockrent, journaliste passionnée par la vie politique américaine. Je rappelle à nos jeunes auditeurs que vous avez présenté le journal de 20h d'Antenne 2. Vous étiez, vous resterez à jamais, la reine Christine. Vous
oui, produisez... c'était au siècle dernier.
C'était au siècle dernier, mais hier, c'est comme si c'était hier pour moi, si vous voulez. Vous produisez, présentez aujourd'hui Affaires étrangères sur France Culture. Vous avez consacré récemment une émission sur les embardés de la politique étrangère américaine et un dictionnaire, vous signez un dictionnaire, le Trump de A à Z aux éditions de Noël. Un an seulement qu'il est de nouveau président des États-Unis. Et aujourd'hui, est-il ouvertement en conflit avec l'Europe? On va se poser la question ensemble. Déjà, qu'est-ce que vous êtes dit, si on revient en arrière, ce fameux 20 janvier 2025, quand Trump a de nouveau prêté serment?
Attachons nos ceintures.
Christine, en un an, on a vu émerger des noms et des visages qu'on ne connaissait pas forcément sous son premier mandat. Comme on parle beaucoup du président américain, on avait envie aujourd'hui de présenter celles et ceux qui sont ses proches conseillers.
La fine équipe.
La fine équipe, effectivement, une belle brochette. Je voudrais commencer avec un homme qu'on connaît assez peu, mais qui est pourtant l'une des pierres angulaires du Trumpisme. C'est Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure de la Maison Blanche. Très mystérieux, on commence à le voir ces jours-ci au sujet du Groenland. Lui, c'est quoi? C'est l'idéologue du Trumpisme?
Ah, c'est le plus radical des idéologues. Le plus jeune de la bande, il a 40 ans. Son obsession, c'est l'immigration. Donc son premier boulot, c'est la chasse, il n'y a pas d'autre terme, aux basanés. Avec cette milice armée, masquée, qu'on appelle ICE, I-C-E. Mmh. Et lui, Miller, il a dit, c'est très simple, il me faut 3000 arrestations par jour. Par jour.
Il a fixé son quota.
Alors, dans les villes qui sont gouvernées par les démocrates, et particulièrement Minneapolis, puisqu'on sait que cette jeune femme de 37 ans, blanche, je le souligne, chez nous, fort heureusement, ça ne nous viendrait pas à l'idée encore que de désigner les gens par leur couleur de peau, mais il faut savoir que dans les États-Unis de Donald Trump et de Stephen Miller, ce qui compte, c'est votre couleur de peau. Et donc, cette jeune femme a été tuée à bout portant par un de ses policiers. Et aussitôt, avant même que l'enquête policière ne commence, le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis et bien sûr Stephen Miller, vous savez, c'est le chauve, là, tout glabre, sinistre. Il a l'air...
La gueule de l'emploi.
On est là pour ça. Il a la gueule de l'emploi. Et donc, lui, il a donné une interview au New York Times. Il dit, il y a trois mots qui comptent, la force, la puissance et le pouvoir. Alors, ça sonne mieux en anglais,
Mais si j'ose dire.
Mais c'est ça.
Autre figure majeure du Trumpisme, J.D. Vance, du coup, le vice-président américain. Qui est-il? Que représente-t-il dans la galaxie Trump? Lui, s'est converti au Trumpiste assez tard, J.D. Vance.
Oui, c'est quelqu'un qui est d'autant plus intéressant qu'il a 41 ans et que, bien évidemment, la Constitution en ferait le successeur de Donald s'il arrivait quelque chose à Donald Trump qui va fêter ses 80 ans en juin prochain et qui s'assoupit, il s'endort quand même, Donald, quand quelqu'un d'autre parle. Et comme il se fait filmer tout le temps dans le bureau Oval, qui est devenu un studio télé en quelque sorte, on le voit qu'il s'assoupit. Néanmoins, donc Vance, selon la Constitution, serait l'héritier. Si Trump va au bout de son mandat, et évidemment, Vance fait tout en ce moment pour se situer dans l'héritage MAGA. Mmh. L'héritage MAGA, c'est le socle électoral de Trump, c'est-à-dire cette Amérique du milieu, où on va rarement, et surtout cette classe moyenne, ces cols bleus, souvent des hommes blancs, affolés par la désindustrialisation et soudés par les religions.
Oui.
Alors, Vance, lui, qui était évangélique, venu d'une famille ravagée par la drogue, l'alcool, etc., en l'Ohio, il s'est converti au catholicisme à l'âge de 36 ans. Il a épousé une Indienne, ce qui dérange un tout petit peu son discours. Il a trois petits-enfants, métis par définition, mais... Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, qui était donc ce propagandiste d'extrême droite, extrêmement doué, qui parcourait les lycées, les universités pour rallier les jeunes hommes, surtout, à la cause de Donald Trump, Kirk assassiné en septembre dernier, Evans s'inscrit dans l'héritage de ce qui est toujours aux États-Unis aussi un business. Il faut bien voir que les religions, et en l'occurrence, il y a beaucoup de catholiques, un nationalisme catholique assez différent de ce qui peut se passer chez nous en France. Et donc Vance, oui, il se met dans ce courant-là qui est très puissant au sein du milieu MAGA.
Merci Christine Ockrent. À suivre, un Zoom Zoom Test très politique aujourd'hui. Vous allez adorer un prix Goncourt, vous allez adorer aussi, et une veille sanitaire que vous adorez à tous les coups. Mais avant, écoutons donc Maureen, Automatique, sur France Inter.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Certains mouvements politiques sont plus éphémères que d'autres. Le lacarisme, par exemple, qui se proposait d'être le premier mouvement ni de gauche, ni de gauche. Il n'aura duré que 5 minutes après un baba chartreuse au bistrot Blériot, Cyril étant monté sur la table pour haranguer la foule qui, ce midi-là, se réduisait à moi et Jérôme Kerviel qui déjeunait seul dans son coin. Malgré ses belles promesses, notamment interdiction des restaurants véganes et réouverture des boucheries chevalines, le projet lacariste s'était heurté au mur du statu quo. Et Cyril à la porte du resto, car il était bourré. C'est justement en hommage, si vous voulez, au lacarisme que nous allons jouer aujourd'hui avec tous ces mouvements en isme qui ont fait pchit. Jouons au Zoom Zoom Test. Le principe est très simple. Je vous lis, ou selon mes envies, vous décris la quatrième de couverture d'un livre écrit par des politiques français, et vous devez deviner le nom du courant de pensée qu'ils incarnent, sachant que Denis, évidemment, ne joue pas, parce qu'il va tout de suite, il les a tous lus. Donc Denis, vous restez silencieux. Top, premier.
Attends, il faut dire de gauche, de droite.
Il faut rien dire du tout. Vous me donnez le nom du courant en isme. Vous me donnez le nom, même pas le nom de. Même pas le nom, si vous voulez, de la personne. Je veux le nom du courant.
Il y a ABC ou pas ?
Mais non, il n'y a pas ABC, Manon, vous allez bien voir. Mais oui, évidemment, il y a ABC, ça.
C'est
un QCM.
Vous êtes dans un état.
Enfin, Manon, c'est le 650e quiz.
Vous m'agressez alors que je pose une question.
Ça va.
Pas du tout, Manon. Faites très attention parce que je peux vous enlever des points. Et là, ça sera de l'agression. Premier courant de pensée, première quatrième de coup, Valéchamp.
Je quitte le studio.
Le récit d'une vie politique hors norme. Une analyse implacable de la situation. Son regard sur le monde qui nous entoure. Un projet pour replacer la France en tête, un fil rouge, la liberté, une obligation, faire, enfin. Vous aurez bien évidemment reconnu, mais vous taisez, on entend les propositions, parce qu'on entend les propositions, vous le savez.
Ah non, mais vas-y, je le fais.
Vous aurez bien évidemment reconnu le style caractéristique de...
François Fillon.
Du séguinisme, Philippe Séguin.
Fillonisme.
Du juppéisme.
Fillonisme.
Ou du fillonisme, effectivement. Vous êtes sûr de vous, quand
même. Sûr, à certains.
Vous misez tout
là-dessus. Le livre s'appelait Faire.
C'est une bonne réponse. Oui, les amis, en régie, Cyril Lacarrière s'est signé trois fois pendant que je vous lisais cette quatrième de couve. Ça aurait dû être pour vous un indice, Manon. Il s'agissait évidemment du livre Coup de poing de François Fillon, Fer, paru en 2015 chez Albin Michel, best-seller mondial traduit en une langue, le russe. Un livre qui voyait juste en parlant de carrière politique hors norme, puisqu'effectivement, être aux portes de l'Elysée pour finir VRP de Vladimir Poutine, c'est assez hors norme. Le meilleur d'entre nous, et nous ne méritons pas, déclara Cyril durant son allocution lors du cocktail de dissolution des fionnistes pontélois combalusiens.
Mais Fer, F-A-I-R-E ou
oui,
Fer,
Manon.
F-E-R, ok.
Non, faire le verbe.
Oui, voilà.
Pour aller faire, quoi.
Oui, oui faire aller.
Faire aller.
Voilà. En tout cas, on reste en selle. Le rodéo du gai savoir continue avec la quatrième de couve de cet ouvrage paru, lui, en 2002. Ce livre 2002. Marquera la première étape de son grand retour. Réparti en cinq grandes parties, le socialisme, l'Europe, la mondialisation, la politique économique, l'État, l'ouvrage est à la fois prétexte à une analyse serrée des mutations en cours et une projection dans l'avenir. Le ton est volontairement libre, libéré en tout cas des prudences habituelles de la personnalité politique en activité qui s'exprime sur les affaires du monde et libéré aussi de toutes les langues de bois. Ce livre, c'est évidemment La flamme et la cendre, typique de la période rose du valsisme, du strauss-kahnisme ou du huchonisme.
Ah, je dirais strauss-kahn.
Strauss-kahnisme, oui.
C'est une bonne réponse.
Les diamants.
C'est une bonne réponse de Quentin qui l'a dit avant vous. Non, je suis désolé.
C'est moi. J'ai commencé à le dire, il m'a interrompu comme d'habitude. Mansplaining.
Bien sûr.
Vous n'allez pas brandir cette pancarte à chaque fois, ça n'a pas marché.
Le huchonisme n'ayant jamais existé, même dans la tête de Jean-Paul Huchon lui-même, contrairement au valsisme qui lui a existé dans la tête de Manuel Valls, par élimination, vous pouviez deviner que ce livre, La flamme et la cendre, était le porte-étendard du strauss-kahnisme, courant de pensée qui s'est écrasé en 2011 sur la moquette souillée du Sofitel de Manhattan. Mais la quatrième de couve.
La quatrième de couve, s'il vous plaît.
Tout à fait, c'est ce que je l'évoquais. À la quatrième de couve avait rétrospectivement raison de saluer le courage d'un responsable politique libéré de toutes les langues de bois, ça c'est sûr. Et restons à New York, on y est si bien. Cyril Flûte. Pour la prochaine question, je vais vous régaler, puisque vous êtes amateur de belles lettres, avec le résumé de « Éloge des voleurs de feu ». Cet éloge s'imposa il y a bien longtemps, j'avais 16 ans, et toi, mon frère, 18. Quand nous marchions dans les rues de New York, à l'heure où le soleil couchant éclaboussait les tours, tu scrutais le paysage, les visages blafards à 6 heures, la fumée qui jaillissait partout, luttant contre les ombres.
C'est pas moche ?
Je compris que, hors de ce quotidien aveugle et sourd, il te fallait des mots, comme des ballons de couleur, pour toucher au cœur. Cette invitation au voyage digne d'un clochard céleste est représentative de... du lemérisme, Bruno Le Maire, du rocardisme, ce bon vieux Michel Rocard, ou du vilpinisme, hein, le grand Dominique de Villepin, qui a été notre invité d'ailleurs.
Villepin.
Le Maire, ça, c'est...
Bruno Le Maire, peut-être, ça ressemble. Ouais. Ça manque de cul. Bonne réponse de Manon Marini, évidemment. Il est beau, il est bronzé, il est poète, et il serait presque de gauche, j'en ai les poils, I have hairs, comme on dit à New York. Si vous êtes fort quiche en poésie, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Top à l'émotion avec cette ultime quatrième de coup. Qui parle et pourquoi ? D'où parle-t-il ? De quels intérêts dépendent-ils ? Qui dirige vraiment la France et avec quels objectifs ? Démonter les rouages d'une machine à broyer les peuples, c'est le premier pas nécessaire d'un vrai changement. Et j'ose le dire, d'une révolution. De la vraie révolution pacifique et démocratique que notre pays est en droit d'attendre. Dans ces lignes bouleversantes et révolutionnaires, vous aurez évidemment reconnu immédiatement les fondations du lepénisme, du poutouisme, Philippe Poutou, ou du mélenchonisme.
Mélenchonisme.
Je vais sur Le Pen, moi. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça marche dans les deux, un peu.
Ça marche dans les deux. La révolution. Enfin, Quentin. C'est une bonne réponse,
Mais calmez-vous.
Mais Manon, vous n'avez pas lu Pour que vive la France, Manon. Mais je me demande si vous êtes vraiment française. Mais Pour que vive la France, le livre référence de Marine Le Pen paru en 2012. On la voit courir hilar sur une plage, pieds nus, les bras en croix. Aux dernières nouvelles, il en restait quelques exemplaires sur une étagère du rayon Tout doit disparaître de la librairie Le Passage à Alençon. Défaite de la littérature et victoire de Quentin. Le jour où on écrit ton nom plus gros que le titre du livre sur la couverture, ce jour-là, tu sais que t'as réussi. Pierre Lemaitre est avec nous cet après-midi pour le dernier tome de sa tétralogie consacrée aux 30 Glorieuses, Les Belles Promesses, c'est publié chez Kalman Levy. Vous parlez, Pierre, de l'illusion d'un progrès régulier et universel, et vous l'illustrez dans ce livre dans deux espaces, la ville et la campagne, deux univers qui, pourtant, ont bénéficié de transformations assez incroyables en l'espace d'une vingtaine d'années. Les Français des villes et les Français des campagnes étaient pris dans un tel tourbillon de nouveautés qu'ils ont eu du mal à gérer l'impact de toutes ces transformations, en fait, toutes les transformations des 30 Glorieuses.
scénarios sont arrivés presque trop vite pour un être humain.
Oui, trop vite. L'exemple de l'agriculture est un bon exemple. En fait, c'est vraiment un moment, un virage, le moment où l'agriculture intensive va commencer à remplacer les fermes familiales et les exploitations de taille modeste. Et c'est ce que j'essaie de montrer avec un des personnages qui s'appelle Manuel et qui, lui, a un double handicap. C'est il est un jeune paysan, mais il est aussi un fils d'immigré. Et c'est intéressant, je trouve, quand même, d'avoir ce double parcours parce que c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui a deux raisons de vouloir s'intégrer.
Et il y a aussi, alors vous parlez de l'agriculture intensive, mais vous nommez aussi la création du périphérique, du boulevard périphérique parisien. Qu'est-ce que ça a changé, ça ? Pourquoi c'était une fausse bonne idée ?
Alors, c'est, d'abord, ce que ça a changé, c'est que symboliquement, c'est très fort. Cette capitale qui est à peu près circulaire est maintenant entourée d'un réseau de bitume qui permet à l'automobile, et donc à la ville, de tourner en rond, l'image. Et puis, en même temps, c'est un ouvrage qui va avoir une importance capitale pour la circulation. Si vous bloquez le périph', vous bloquez Paris. Si vous bloquez Paris, vous bloquez la France. Si vous bloquez la France, vous bloquez l'Europe. En fait, on ne se rend pas compte à quel point cet ouvrage d'art est extrêmement fragile, extrêmement poreux, exactement comme nos démocraties. C'est une assez bonne image du fait que nous avons beau monter des systèmes sophistiqués, ils demeurent extrêmement fragiles.
C'est tout un état d'esprit qui se développe à cette période-là. Est-ce que c'est cet état d'esprit qu'on peut traduire aujourd'hui par le mot « boomer » ?
Oui, le mot boomer, c'est un mot étrange parce que pendant longtemps, il a été plutôt amélioratif. Un boomer, c'était plutôt positif. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu péjoratif, voire insultant. Alors moi, qui ai vécu toutes ces périodes-là, vu mon grand âge, ça m'amuse pas beaucoup.
Vous considérez comme un boomer, vous-même ?
Je suis exactement un boomer.
On vous traite de boomer, parfois, vous ?
On n'ose pas. Monsieur. Ça, je ne laisserai à personne. Non, mais... Personne ne le fait. En fait, moi, je sais que je le suis, donc ma mauvaise conscience me suffit.
Mais sauf que la critique souvent adressée aux boomers, c'est qu'ils se seraient tous gavés pendant les Trente Glorieuses, ce qui n'est pas le cas. On voit dans le livre.
Oui, vous avez raison, Mathieu, parce que, en fait, vraiment, il faut bien voir que dans un pays qui va globalement bien, il y a beaucoup de gens dans les marges. Et donc là, j'essaye de faire, justement, dialoguer une famille française, les Pelletier, qui vont plutôt bien, qui font partie des familles qui réussissent, avec ceux qui sont les exclus du périph' d'un côté, c'est-à-dire ceux qui ont été expropriés pour construire le périph', et de l'autre côté, l'exode rural avec ce jeune Manuel, et j'essaie de faire dialoguer ces deux strates de la société.
Quentin.
Ce que vous dites aussi, c'est que les boomers ne se sont pas gavés. On dit souvent ça, que vous avez bien profité, vous en avez brûlé du pétrole, etc. Vous craignez qu'il y ait une espèce de conflit générationnel sur cette idée-là ?
Non, je crois que ce conflit maintenant est éteint parce qu'on va être maintenant rattrapé par une urgence qui nous dispensera de ce discours-là. En fait, on n'a plus beaucoup besoin maintenant de regarder le passé et d'essayer de l'interpréter parce que nous avons avant tout un avenir catastrophique devant nous. Nous marchons sur un lac gelé et quand le lac va céder, la transition écologique n'aura absolument aucun sens. En fait, on a un vrai problème là avec cette expression de transition écologique qui est une vaste connerie. Et donc la question...
En quoi c'est une vaste connerie, Pierre ?
Elle fait croire qu'on peut, de manière progressive, transitoire, s'adapter.
Sortir du modèle productiviste.
Mais c'est pas comme ça que ça va se passer du tout. Il faut lire un essai de Nathan Wallenhorst qui est un très bon scientifique et vulgarisateur, qui nous explique que le réchauffement climatique va faire basculer la planète très rapidement, exactement comme un lac gelé ou comme un ballon de baudruche dans lequel vous soufflez, quand il éclate, on rentre dans un cycle de conséquences sur lesquelles nous n'aurons plus la main.
Vous êtes défaitiste, il ne faut plus rien faire.
Non, je ne suis pas défaitiste, je dis il faut changer dès maintenant nos modes de vie, et l'idée de progression est une idée fausse qui nous met dans une illusion qu'au fond la technique va nous aider, ce qui ne nous aidera pas, parce que c'est la technique à qui nous le devons, et que surtout nous avons le temps, nous n'avons pas le temps.
Alors Manon, aujourd'hui une veille sanitaire 100% people.
Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation, je ne me laisse plus contrôler, je me défends pour la première fois de ma vie, je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. Ce sont les mots de l'aîné du clan Beckham, posté sur son compte Instagram lundi dernier. Brooklyn Beckham, 26 ans, 16 millions d'abonnés, a pris la parole publiquement pour parler de sa relation avec ses parents David et Victoria. Une prise de parole guettée par la presse people anglaise, toujours à l'affût quand ça concerne les Beckham. C'est elle qui avait révélé à plusieurs reprises que Brooklyn était fâché avec ses parents depuis qu'il s'était fiancé à l'actrice américaine Nicola Peltz. Des rumeurs qui ont donc été confirmées par le principal intéressé. Dans sa série de stories, il parle notamment de l'attitude de sa mère Victoria Beckham, aka Posh, My Spice Girl préférée. Selon lui, elle aurait été détestable avec sa femme au point d'annuler la confection de sa robe de mariage à quelques jours de la cérémonie. Je rappelle que Victoria Beckham est créatrice de mode. Il a aussi dit que sa mère lui aurait volé sa danse de mariage sans qu'il le sache. Elle aurait organisé un stratagème pour qu'il se retrouve obligé de danser avec elle et elle aurait dansé de manière inappropriée avec lui. Je n'ai jamais été aussi gênée de ma vie. Ce sont les mots de Brooklyn.
Moi, j'imagine maintenant que tout ça a bien fait réagir les réseaux sociaux.
Évidemment, ils sont en boucle sur l'histoire. Les Beckham sont en trending topic sur X et des centaines de vidéos se moquent de Victoria Beckham et de sa fameuse danse inappropriée. Le but est de trouver une prestation de danse un peu haute et de dire que c'est ce qu'elle a fait. Une vidéo est aussi devenue virale. On y voit la famille Beckham à une avant-première en train de prendre la pose. Brooklyn est avec sa femme. Il se positionne à côté de sa mère qui ne le calcule pas du tout. Elle enlève même son bras quand il essaie de se rapprocher d'elle. Le couple a l'air très mal à l'aise et Posh ne leur adresse même pas un regard. C'est très humiliant. Alors évidemment, Victoria Beckham s'en prend plein la tête sur les réseaux. On notera quand même que c'est toujours la femme qui est prise pour cible. Sexisme oblige, alors que David Beckham n'est pas non plus tout rose dans cette histoire. Son fils le met d'ailleurs dans l'eau quand il dénonce l'attitude toxique de ses parents envers lui. Il dit que son père a refusé que sa femme soit présente à ses 50 ans. L'ex-footballeur a réagi hier dans une interview. Un journaliste lui a demandé s'il avait un message pour son fils et il a bien esquivé la question en répondant que c'était normal que les enfants fassent des erreurs. Je rappelle quand même qu'on parle d'un enfant de 26 ans qui vient de mettre à mal toute la façade parfaite vendue par le clan David Beckham.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Manon ?
Eh bien, les Beckham, c'est un peu l'autre famille royale anglaise. Victoria et David ont créé une histoire d'amour digne d'un film. Le footballeur qui sort avec la star de la pop. Ils ont toujours fait les choux gras de la presse People. Ils sont beaux, ils sont successful et ils sont très attachés à leur image. Sur Instagram notamment, où ils cumulent à eux deux 121 millions d'abonnés, ils se montrent toujours souriants, amoureux et surtout avec leurs enfants. La famille parfaite qui s'entend super bien. Les deux félicitent leurs enfants à la moindre occasion dans des longs posts que leurs fans adorent. C'est aussi ce qu'ils ont mis en avant dans leur documentaire Netflix. L'un sur David, l'autre sur Victoria. Ils se montrent toujours taquins l'un envers l'autre, très protecteurs de leur famille. Les Beckham, c'est une marque, c'est un idéal de vie, une sorte de rêve américain à l'anglaise. Les révélations de Brooklyn Beckham viennent donc profondément entacher cette image. Leur plan de com' ne fonctionne plus. C'est d'ailleurs ce que dénonce leur fils, la marque Beckham passe avant tout. Il dit notamment cette phrase « L'amour familial se mesure à la quantité de posts que vous publiez sur les réseaux ». Avec ces révélations, Brooklyn Beckham met en avant cette culture de l'image cultivée par beaucoup de célébrités sur les réseaux. Mais preuve en est qu'il faut toujours se méfier des apparences, même quand celle-ci prend la forme d'un couple glamour qui prône des valeurs familiales à tout va. La suite au prochain épisode, j'ai très hâte.
Merci Manon. La chronique de Gigi Pop, c'est juste après The Avalanches, tiens, ça faisait longtemps. Frankie Sinatra sur Inter.
Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Me boy, you don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, me boy, you don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie, me boy, you don't know. You have a perfect voice to sing calypso.
Office worker, he's office worker. Please, Mr. Officer, I only had some vodka, little marijuana, just a few biker and only reefer. Smoking my hair while I'm driving. Registration, OT license. Cause of the interior, your bitch wanna ride it. Great red bow tag, dick got low jack. White House calling and they asking where the dough come. What? Whatever. Modern day Sammy, how I wrote with that Sinatra. Off a pasta sprayer in her mouth like Menaka. Listening to salsa, rhythm of maracas. M-I-A on the toga, that's my nursery vodka. I divide and conquer, blowing Willy Wonka. Baby mama wanna suck the down up at the concert.
Sing calypso. What did they say?
Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, me boy, don't know. You haven't been big voice to sing calypso. What did they say? Frankie, me boy, don't know. You haven't been big voice to sing calypso.
I'm so high, you're so high. If I take another step, then I test my die. Take another step, then I test my life. Tell I wish you wanna hear just to get between them thighs. Underground, nigga, but on top of the world. Took the bitch for oyster, not my tongue on the burl. So fuck what you say, do this shit my way. Like Frank Sinatra, bitch, did this shit my way.
Tanks of vodka, sippin' slow rocker hot. Rip rhymes since the days when Frankie Crocker rock. From a stocky stock, known for his illy right hook to make Rocky block. That's no poppycock pirate. We can keep it irie, or we can keep it irie. Tidy, we keep it 100. From the heights and all the lights, Southern Comfort Muffin. Come with that headbanger boogie for that ass. Will I give a bully 10 noogies for the cash? Dash, dip slow on a marathon. Or maybe he goes in Calypso like Farrakhan.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël et toute sa bande.
John Hammond a sa canne, le moustique a sa pompe, et lui, il a sa plume. C'est son meilleur lancement, en tout cas. C'est vraiment exceptionnel, celui-là, tu t'es vraiment foulé. Oui. Voici Gigi Pop.
Oui. Salut, c'est Gigi, deux fois Gigi, ainsi que Guy, double Gigi, puis Guy. Quand je dis Guy, vous dites Guy, ok. Guy.
Guy.
Comment je m'appelle?
Gigi.
Bonjour, Émilie. Oh là là, quel plaisir de parler de l'année 1993 et de la sortie de Jurassic Park. Car comme mon teint de jeune pâquerette ne l'indique pas, j'étais. Et là, vous allez me dire, mais une pâquerette, c'est à moitié jaune. Il a une cirrhose, le comique. Impossible, Émilie, je suis en Dry January. Mais attendez une minute, ça n'a plus aucun rapport avec la chronique. Et si, puisque je suis un funambule de la langue française. C'est le Jurassique ou quoi?
Oh là là.
Ah bah, écoutez, Émilie, j'espère que les pompiers ne sont pas tous au bal parce que je viens de mettre le feu au studio. Bon, revenons à Jurassic Park. Figurez-vous que je l'ai même vu au cinéma à sa sortie. Et oui, j'ai bien connu la dinomania. Et j'ai même bien connu un phénomène encore plus vieux, à savoir la bruelmania. Ce qui fait de moi bientôt un pur fossile et je parle pas de mes paupières. En revanche, j'attends toujours la Gigimania. Oui, aussi, je profite de cette tribune pour m'adresser à mes fans. N'hésitez pas à la lancer dans pas trop longtemps, hein, parce que j'ai déjà des fourmis dans les pattes quand je fais la grosse commission. Donc, à mon avis, faudrait pas trop tarder. Voilà. Alors, en primaire, j'avais un slibard Jurassic Park, figurez-vous, avec un tyrannosaure dessiné sur la poche à baboule. Et je m'en souviens bien parce que j'avais passé une visite médicale et l'infirmière m'avait dit en pointant mon slope, eh ben, dis donc, c'est un bien beau dinosaure. Que tu as là, semant le trouble dans mon esprit. Parlait-elle du dessin ou de ma chenille? La chenille est-elle un animal préhistorique en plus d'être un énorme tube? Vous me suivez, Émilie? N'hésitez pas à mettre le GPS si je vais trop vite, parce que je ne sais pas du tout où je vais. Bon. Alors, dans Jurassic Park, on a réussi avec le pont. Pardon. Alors, dans Jurassic Park, on a réussi à recréer des dinosaures grâce à l'ADN retrouvé dans un moustique. Aussi, je me permets d'adresser un appel à tous les moustiques qui nous écoutent. Ne vous fatiguez pas à piquer l'équipe de Zoom Zoom Zen. Personne ne voudra jamais nous recréer et nous foutre à poil dans un enclos dans 65 millions d'années. Voilà, vous pouvez même enlever le 65 millions d'années. Personne ne voudrait nous voir à poil dans un enclos. Et d'ailleurs, vous pouvez même enlever l'enclos. Ouais, bon, voilà. C'est ce qu'on appelle une vanne en escalier. Et vous savez ce que dit Jean-Luc Reichmann dans un bar à salade? Attention à la mâche. Ouais, voilà. Allez, pas de temps à perdre. Alors, merci. Il y a quelques années, j'avais écrit un film sensiblement sur le même principe que Jurassic Park. Et si vous me le permettez, je vais vous en faire la bande-annonce tout de suite. C'est parti. Ah, il y a une centaine d'années en Gaule, un moustique a plongé sa trompe dans une baguette tradition, avant de finir ses jours fossilisé dans une tranche de saucisson sec sous la tour Eiffel. Plus tard, des scientifiques ont retrouvé sa trace, et après l'avoir analysé en laboratoire, ils ont pu recréer une espèce. Une espèce qui n'avait pourtant jamais disparu, alors qu'on aurait bien aimé qu'elle disparaisse, parce qu'elle commence sérieusement à nous casser les couilles. Mesdames, messieurs, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en exclusivité mondiale et sur France Inter, je vous souhaite la bienvenue à Vieux Racist Park. Regardez là-bas dans son enclos, c'est un Zemmourosaurus. Plus loin, à l'ombre d'un baobab, nous apercevons un Pascal Prodocus. Et dans les airs qui survolent la pampa, c'est une Brigitte Bardozor. Gare au Lopénosaurus Rex, et là-bas, c'est mon oncle Daniel. Bon, il est un peu moins connu, mais il a tout aussi sa place dans le parc. Bon, voilà. Alors j'ai conscience, Émilie, que vous trouvez cette fin de chronique un peu T-Rex par les cheveux. Ah là là, en tout cas, j'espère qu'ils font des soldes chez Casto, parce que je viens de casser la baraque. Bon, alors, je m'en vais, mais vous savez ce qu'on dit quand Guigui s'en va. Oh là, j'avais pas à dire. Le Tyrannorosus. Oh putain, bref. Bon, là, c'est la fin de la chronique. Le Tyrannorosus. Ah, j'arrive pas à dire. Allez, laisse tomber, merci, au revoir, ciao. Le Tyrannosaurus reste. Oh,
c'était
voilà,
la meilleure chute de Guigui dans toute l'histoire.
Oh, c'est une catastrophe.
De Zoom Zoom Zen. Et évidemment, ça on va pas la refaire. On va la garder. C'est en boîte, comme disait Steven Spielberg. Eh oui, bravo mon Guigui.
À la réalisation de ce best-of, c'était Alicia Vulot. Nous, on se retrouve lundi. On parlera du nepaïsme ou l'art de ne plus s'engager. À lundi donc, 16h. À suivre, la balade avec Vincent Josse. Bonjour Vincent, qui est votre invité aujourd'hui ?
Bonjour Mathieu, c'est Camille, l'invité de la balade aujourd'hui.
Zoom Zoom Zen.